Renault Scénic E-Tech 100% électrique, élue voiture de l'année 2024 par 58 journalistes venant de 22 pays et parmi 28 modèles de marques prestigieuses. C'est la 7e fois que Renault remporte ce prix, la 2e fois avec Scénic, et c'est une première mondiale pour une voiture électrique assemblée en France. Ça fait beaucoup de chiffres, mais le principal c'est que Renault Scénic E-Tech 100% électrique, allant jusqu'à 625 km d'autonomie, soit numéro 1.
Selon normes WLTP, plus d'informations sur Renault.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun.
Et c'est l'heure du grand oral des GG et on accueille Willy Schren qui est
bonjour
avec nous. Willy Schren de la Fédération Nationale des Chasseurs. Oui. Bonjour Willy, tout à l'heure j'ai fait rigoler tout le monde en disant le premier parti écologique de France.
Ah, le vrai, c'est nous ça, oui.
Ça vous le revendiquez, vous l'assumez.
On revendique rien sur ce sujet, on est des vrais gens de terrain et puis voilà, l'écologie peut avoir plusieurs formes. Il y a des gens qui pensent effectivement qu'elle peut être un peu plus théorique. Moi je pense que voilà, on fait partie de ces gens qui œuvront depuis des générations sur le territoire et qui ont fait des choses très bien pour la nature. Donc on peut pas, voilà, faut pas être aussi sectaire que ça. C'est toujours difficile aujourd'hui, hein. Le camp du bien, le camp du mal, hein. Le purgatoire a disparu, c'est un petit peu dommage.
On va y revenir, mais l'actualité, c'est cette traque dans les Cévennes. On présente le fugitif comme étant un chasseur. Est-ce que vous, puisque quand on est chasseur, on a un permis de chasse et donc on est répertorié, est-ce que vous avez vérifié s'il était vraiment un chasseur?
Justement, alors évidemment, j'ai entendu encore ce matin que c'était un dangereux chasseur paranoïaque et psychopathe. Ah, évidemment, dès qu'il y a un mec un peu dangereux qui se promène, forcément il est chasseur. Moi, j'ai pas retrouvé son permis de chasser, donc ça m'inquiète un peu.
Ah, vous l'avez pas retrouvé?
Voilà, je sais qu'on a compris qu'il avait une licence de tir, mais il faudrait juste pas faire l'amalgame. Effectivement, et même encore s'il était chasseur, faut pas faire l'amalgame non plus.
Mais vous avez pas retrouvé son permis de chasse.
Donc mais il est pour pas dans nous, le fichier. Voilà, j'ai questionné le fichier central, je retrouve pas. Alors, il me fallait un petit peu plus de détails, mais moi j'ai pour l'instant pas retrouvé qu'il était chasseur. Donc ça m'inquiète un petit peu.
Avec son nom, son patronyme.
Avec son nom, voilà. Avec son nom.
Chassé de façon illégale.
Ouais, alors ça s'appelle un braconnier. On va enlever le nom de chasseur. On va dire c'est un braconnier. Il y en a, hein, rassurez-vous, il y en a plein.
Il y
en
a
plein.
Il y a un amalgame, c'est-à-dire qu'il est tireur sportif.
Il aurait, voilà, il est tireur sportif. Ah, par contre, c'est pas un problème vis-à-vis du fait qu'il soit tireur sportif, mais c'est quand même toujours terrible dès qu'il se passe un truc. Forcément, le mec, il est chasseur. J'entends ce matin, chasseur, psychopathe, paranoïaque.
Ah ouais, Barbara même était.
Boum, boum, boum.
Tout à l'heure, Barbara.
Mais j'ai entendu ce qu'a dit Barbara tout à l'heure. Barbara.
En gros, quand on peut tuer des animaux, un jour, on peut tuer son patron, quoi, en fait.
Et oui. quand on bascule, il y a une facilité à passer à l'acte quand on a déjà comme hobby et comme passe-temps d'aller tirer sur des animaux qui sont aussi, nous sommes des animaux humains et il y a les animaux non humains.
Voilà. Ah, ouais. C'est bizarre, si je vous écoute, tous les assassins devraient être forcément chasseurs.
Non, j'ai dit ceux qui basculent, j'ai pas dit tous les chasseurs
qui
sont les assassins.
Il y a beaucoup qui basculent.
Les chasseurs.
Il y a beaucoup qui basculent et qui sont pas chasseurs.
Dans la bascule psychiatrique.
D'accord. Mais
à partir du moment où il avait l'habitude de chasser et où il avait ce goût de donner la mort, excusez-moi, pour moi, c'est donner la mort, donc ça me pose problème.
D'accord. Mais enfin bon, on verra s'il est chasseur. Et puis non, je suis pas tout à fait d'accord avec ce que vous dites là-dessus. Heureusement. Mais heureusement. Là,
Willy,
franchement,
Willy,
on va loin.
À partir du moment où on est chasseur répertorié officiellement, est-ce que vous avez aussi pour chaque chasseur, c'est vraiment une question de béotien, je ne sais pas, est-ce que vous savez le nombre d'armes qu'il possède ou pas dans le fichier?
Oui, alors on sait beaucoup de choses. Et on œuvre sur beaucoup de choses. D'abord, on sait effectivement ce qu'il possède comme armes. Voilà, elles sont répertoriées, on sait où elles se trouvent, au domicile, mais ça va plus loin aujourd'hui. Aujourd'hui, on se croise des fichiers, vous avez beaucoup de chasseurs. Par exemple, je prends un exemple tout bête, si vous avez eu un jour un délit, ça peut être un excès de vitesse, une alcoolomie au volant, ou si vous avez un jour mis deux claques à un mec à la sortie d'un bal quand vous aviez 20 ans, eh ben, on vous retire effectivement le droit de posséder des armes, et on vous retire le droit d'être chasseur. Donc vous devez effectivement demander un effacement de votre casier judiciaire, il y a une procédure, on vérifie plein de choses. Donc c'est pas des assassins en puissance, parce que quelque part, tous ceux qui ont eu déjà maille à partir avec une forme de violence, il y a des choses qu'on refuse d'enlever. Par exemple, quelqu'un qui a battu sa femme un jour, nous, voilà, ça fait partie aujourd'hui des critères où vous ne pouvez plus jamais avoir un permis de chasser. Ça c'est clair. Donc on est au contraire extrêmement précis là-dessus, on fait très attention, très attention. Donc c'est plus strict que tout ce qui se passe ailleurs.
On entend beaucoup dire que aujourd'hui la chasse est en perte de vitesse, que ça devient ringard d'être chasseur. Est-ce que c'est vrai qu'il y a chaque année de moins en moins de licenciés?
Alors il y a une baisse des licenciés qui a été forte à un moment, puisqu'on est passé de 2 millions à 1 million, donc forcément la baisse est très importante. Par contre, ce qu'on retrouve aujourd'hui, c'est qu'on a de plus en plus de demandes. Et particulièrement depuis ce début de cette année, c'est impressionnant.
Pourquoi, à votre avis?
Beaucoup de jeunes urbains, jeunes femmes, beaucoup de femmes qui veulent effectivement accéder à la chasse, malgré tout ce qu'on se prend dans la gueule à la télévision à longueur d'année. D'ailleurs, on a fait un sondage et vous l'avez vu. Ouais. On peut dire ce qu'on veut. On disait toujours, il y a 85% des gens qui vous détestent. Il y a juste un Français sur deux qui se pose des questions. Il y en a un qui s'en pose pas. Et dans la moitié qui se pose des questions, il y a les trois quarts qui veulent manger du gibier. Donc c'est quand même intéressant. Voilà. Donc on se rend compte que malgré tout ce qui se passe, eh ben, la chasse, dans le fond, pour les jeunes, n'a jamais été aussi attractive.
C'est intéressant, c'est peut-être parce qu'on a vu qu'il y avait un mouvement des urbains qui avaient envie d'aller à la campagne, etc. Ce serait ce même mouvement
post-confinement. Oui, puis je pense qu'il y a un moment, il faut sortir de ces caricatures violentes vis-à-vis de la chasse, de stigmatiser tout et n'importe quoi. Il n'y a pas que des abrutis à la chasse, il y a beaucoup de gens, et une écrasante majorité. Des gens. Mais ça aussi, c'est le stéréotype. Rassurez-vous. Il y a aussi des alcooliques, mais rassurez-vous, en d'autres temps, je faisais des sketchs sur l'alcoolémie dans les commissariats. Je sais pas s'il pourrait faire le même aujourd'hui.
C'est vrai.
Attention à tout ça. Bien sûr qu'il y a des mecs qui picolent à la chasse, mais quand je regarde les Français, ça picole dur partout. Donc à partir de là, pas de leçon dans ce domaine.
Il y a aussi des gens qui picolent chez les
éducateurs. Et quand il y a un accident de chasse, oubliez jamais qu'on prend effectivement le taux d'alcoolémie. Et vous avez vu qu'il n'y a jamais eu un accident mortel. Et c'est, ça, en moyenne, c'est 3% des accidents où il y a de l'alcoolémie. Donc ça doit être, à mon avis, beaucoup moins que des accidents de voiture.
Une arme, c'est sûr que.
Oui, une arme, c'est normal. Mais on n'est pas contre. Et c'est normal. Mais une voiture, c'est une arme quand c'est mal utilisé, plein de choses comme ça.
Pareil.
Une paire de skis quand on fait le con en bas des pistes, c'est dangereux aussi.
Moi, je sais que la chasse, c'est traditionnel, parce que la France est un pays de forêt depuis toujours, et donc la chasse est traditionnelle. Moi, j'ai un truc qui m'a étonné, parce que quand les chasseurs nous répondent sans arrêt, ouais, mais alors, les sangliers, regardez, ils sont partout, on est obligé de les flinguer, parce que sinon, ils bouffent toute l'agriculture. Et pourtant, j'ai lu qu'il y avait des élevages de sangliers, mais d'autres animaux, destinés à être chassés, c'est-à-dire des animaux qui sont élevés, y compris des sangliers, mais d'autres bêtes.
Chassés en enclos.
Puis on leur ouvre en quelque sorte leur cage et on les donne à buter à des chasseurs. Vous n'allez pas me dire que ces chasseurs sont quand même des amoureux de la nature. Ce qu'ils veulent, c'est buter de l'animal. Ce que je peux comprendre, on peut aimer tuer des animaux, moi ça me dérange pas du tout.
Chasse est effectivement conduit jusqu'au bout, qu'ils soient en enclos ou ailleurs. Bon, vous avez tous compris, je m'en suis jamais caché. Je ne suis pas un grand adepte de l'enclos. Je vous l'accorde. Rassurez-vous, c'est qu'une infime partie de la chasse. Là aussi, attention à la caricature. Attention à ça. Vous savez, la plupart des gens, c'est des gens qui habitent dans leur village, qui vont chasser 5-6 dimanches par an, en famille. C'est ça, le chasseur, quand même, à 90 ou 95%. Il y a des gens, d'abord, parce que aller chasser dans un enclos, ça coûte cher. Ouais, donc, à partir du moment où vous mettez 300, 400, 500 ou 1000 balles pour une journée de chasse, je peux vous dire que ça enlève beaucoup de monde.
Aujourd'hui, donc, les forêts de Sologne, les 500 000 hectares de forêts de Sologne qui sont enfermées, clôturés, engrillagés par les propriétaires, souvent d'ailleurs des gens du CAC 40 qui invitent les politiques à faire de la chasse le week-end pour faire un petit peu de business en même temps. Quelle est votre position justement sur l'engrillagement notamment des forêts de Sologne qui posent des graves problèmes aux riverains, sur ces enclos cynogénétiques où en fait en réalité se déroulent des safaris pour l'entre-soi politico-industriel français.
Je vais être très très clair là-dessus. Et vous
y allez, vous êtes invité là-bas?
Tout ce que j'ai dit, non, je n'ai pas été invité. Donc ça m'est arrivé d'être invité, je vous le dis, c'est pas trop mon truc. Mais bon, admettons. Mais j'y suis allé dans ma jeunesse. Pas en Sologne, mais j'ai déjà été chassé plusieurs fois dans un parc. Donc je ne renie rien de ce côté-là. Par contre, effectivement, moi je suis tout à fait contre cet engagement. Le problème, c'est que c'est pas seulement un problème de chasse. C'est des gens... Il y a un vrai problème en France aujourd'hui. C'est sur la notion de propriété privée. Donc vous avez des gens qui ont beaucoup d'argent et qui en ont marre de se faire insulter dans leur territoire quand ils sont à la chasse, ou qui virent des gens tous les deux secondes, qui ramassent des champignons, qui se promènent en dehors des sentiers. Le problème vient de là. La notion de propriété privée. Donc quand on a beaucoup de pognon, et il en faut beaucoup, parce que clôturer 3000 hectares, et ils en ont beaucoup. Et là-bas, il y en a plus qu'ailleurs. Ouais. Donc ils ferment l'engrillagement, le principe étant, foutez-moi la paix, je veux vivre chez moi. Moi je crois, alors je suis contre, totalement, parce que c'est même pas une question de chasse, c'est une question de biodiversité. Comment avoir des échanges, effectivement, entre les espèces?
Et ça fait des maladies, c'est de la folie. Notamment la peste.
On peut créer des maladies. La sportine qui n'est jamais née dans un enclos, rassurez-vous.
Non.
Si c'était aussi simple que vous le dites, ça se saurait depuis longtemps. Et j'imagine qu'on en aurait pris plein la figure. Il n'y a jamais eu de maladie pour l'instant. Ça vient pas de là.
Ça pourrait venir, hein. C'est comme pour toutes les maladies.
Ça peut venir partout. Ça peut venir partout. Mais ne liez pas ça à des enclos, ça n'est pas le cas. Mais je suis d'accord avec vous. Moi, je veux pas qu'on coupe effectivement les continuums écologiques des espèces. Parce que ça vient des eaux fermées où on tire sur des animaux. Et là, je suis pas d'accord. Mais attention de bien prendre en considération, parce qu'une loi va arriver à l'Assemblée nationale là-dessus.
Ouais.
Attention de bien prendre en considération cette notion aussi de propriété privée. Et je souhaite qu'on passe bien les deux choses ensemble. Et je suis pour, effectivement, le désengagement de la Sologne. Il n'y a aucune ambiguïté en ce qui me concerne.
Oui, mais le droit de se clore n'est pas un droit absolu de droit de propriété.
Benjamin Alors, oui et non. Parce que dans ce cas-là, on va descendre à quel niveau? votre jardin que vous fermez à la campagne par un grillage, vous avez le droit de le clore ou pas?
Eh ben, ça serait, c'est pas un droit absolu, je vous ai dit.
Oui, justement.
Si c'est pour empêcher le développement de la biodiversité, c'est un droit qui doit être levé. Il n'y a pas un droit absolu de se clore
sauf,
sur son domaine privé.
Sauf qu'il faut définir dans ce cas-là une règle, clairement.
Ah ben oui.
C'est un vrai sujet qu'il faut poser sur la table.
Eh ben, tout à
Il
fait.
Sera
et
posé.
Et c'est en ça que
et
vous,
je pense que nous ne serons pas très éloignés.
Vous êtes en face de
Benjamin Cauchy.
Défendre voilà. les animaux.
J'ai lu une de vos, un de vos écrits qui disait finalement entre Paris ne sait pas ce qui se passe en province, ne sait pas, n'a pas conscience de la réalité de ce que vivent les chasseurs. Donc moi j'ai pas participé au procès contre la chasse. Au contraire, la chasse aujourd'hui c'est l'un des régulateurs de l'écosystème en ruralité, que ce soit de la faune et la flore. Et ça depuis des siècles et des siècles. La chasse, je ne dis pas qu'elle fait partie de l'ADN de l'homme, mais quoi qu'il en soit, depuis la nuit des temps, l'homme a été obligé de chasser pour survivre. À l'époque, il n'y avait pas le tofu en barquette chez Monoprix, les Homo trottinetus n'envahissaient pas les cabinets ministériels, et donc c'était le bon sens paysan qui faisait que la chasse aujourd'hui encore a toute une légitimité en campagne. Alors évidemment, les chasses en enclos, c'est comme si on comparait la gastronomie française au fait qu'il y ait des McDo à chaque coin de rue. Bah, je suis désolé, la gastronomie française, c'est pas les McDo à chaque coin de rue. Eh bien, la chasse en enclos ou la chasse à cours, qui peut être là pour le coup, Monsieur le Président, un peu décrié, ne correspond pas à la réalité des chasseurs. Il y a des milliers de personnes qui tous les dimanches vont être des rabatteurs, c'est-à-dire qu'ils vont enfiler leurs bottes et un bon gilet. Et vont se promener sans toucher un seul fusil.
Pour vivre la chasse.
Pour vivre la chasse et vivre une connexion.
Des animaux qui sont des victimes collatérales des chasses, par exemple les chats forestiers, les loutres, les renardos, qui sont tués dans le cadre de chasse pour la chasse aux cerfs, pour la chasse aux cervidés.
Et qu'est-ce qu'on fait?
Et
qu'est-ce qu'on fait avec ces élus locaux qui bétonnent toute la ruralité, qui ne s'occupent pas de l'entretien
des.
Non, mais si, je vais comparer.
Moi, je vais
Je veux bien y répondre, Barbara Lefebvre. Je vois que vous lisez bien vos notes là-dessus, mais vous mélangez quand même les loutres et les renardos. Renardos, il n'y a pas de dommages collatéraux.
Ils peuvent être victimes des chiens de terrier, viennent aussi à travers.
Non, mais là, c'est volontaire, Barbara Lefebvre. Hein, c'est pas des dommages collatéraux, c'est volontaire. C'est ce qu'on fait. Tandis que les loutres, c'est une espèce protégée. Alors, la loutre, dommage collatéral de la chasse, chapeau.
Ah, bah bien sûr.
Je pense que vous avez une grande connaissance du terrain en matière de biodiversité, parce que ça va pas être facile de choper une loutre d'un coup de fusil au milieu d'une rivière.
Un coup de fusil avec les chiens, avec les animaux.
Chiens qui nagent, qui plongent et qui vont dans les terriers chercher la loutre. Loutre, Barbara Pompili, j'en suis arrivé à ce niveau-là quand je vous écoute, Barbara Lefebvre,
c'est du Barbara bashing.
Oh mais elle est très bien.
Non, parce que moi je suis pour le statut juridique des animaux.
Non mais là vous dites une grosse connerie, la loutre, d'accord. C'est complètement gonné de la plaque, c'est un animal qui vit que dans un monde halieutique. Qu'est-ce que les chiens vont attraper une loutre
au bord des étangs.
Quand elle prend le soleil sur son transat.
Vous partirez peut-être un jour chasser ensemble, et comme ça
ça
vous
pourrait,
ça se pourrait.
Mais moi je demande pas mieux d'emmener Barbara Lefebvre à la chasse.
Je peux pas.
Bah, vous avez tort.
C'est
comme le gamin qui dit j'aime pas, j'ai pas goûté, venez voir une fois, on saura ce que c'est.
Honnêtement, ça n'a rien à voir contre vous. Je ne peux pas voir quelqu'un tuer un animal.
Mais pourquoi? Vous mangez de la viande ou pas?
Non, parce que je considère que l'animal est une personne.
Vous ne mangez pas de viande, vous êtes plutôt vegan, Barbara Lefebvre.
Non, c'est pas la question.
Est-ce que vous mangez de la viande?
Non, je mange plus de viande.
Ouais.
J'en ai mangé, mais
je l'avais un peu remarqué. Moi, j'aurais pas pu le dire. Moi, j'aurais pas cru, mais.
Je mange du poisson, oui. Et je mange des œufs.
Alors, ok, vous mangez du poisson.
Oui.
Alors, ça vous choque pas quand il y a un poisson que vous mangez?
Poisson sauvage. Je ne mange pas de poisson d'élevage.
Parce que nous, c'est des animaux sauvages. Donc, on est bien d'accord.
Je mangerai pas de
poisson. Faut bien le tuer, votre poisson sauvage, à un moment. Et là, ça vous choque pas?
Sur la pêche, c'est autre chose. J'ai une autre réflexion par rapport à la pêche, parce que je suis sur la question de la sensibilité et de l'animal.
C'est pas un peu dogmatique cette approche?
Non, pas du tout. D'accord. C'est une question sur le statut de l'animal, mais ce serait un autre sujet.
On a beaucoup dit au début de son quinquennat que le président Macron était président des chasseurs. Vous en êtes où avec le chef de l'État? C'est toujours l'amour fou?
Oui, il passe son permis la semaine prochaine. Non, je déconne. Mais évidemment, on travaille avec le président de la République. Voilà, c'est quelqu'un qui... Ça me surprend qu'on puisse dire effectivement le président de la République est un pro-chasse parce qu'il écoute les chasseurs. On en parlait de chiffres tout à l'heure. Il y a 4,5 millions de gens en France qui portent un permis de chasser dans la poche. Il y en a 1,2 million qui le valident tous les ans. Et avec ça, on a encore 2 millions de personnes qui nous accompagnent. Bon, vous voyez ce que ça représente. Et les familles, enfin, faudrait être fou quand on est président de la République pour pas parler à 10 millions de personnes.
Ce sont des électeurs.
Ce sont aussi d'abord avant tout des Français qui vivent sur des territoires. Puis rajouter à ça les 6 millions de pêcheurs avec leur famille, on fait quoi?
Alors, il y a Emmanuel Macron, mais il y a aussi Barbara Pompili, la ministre de...
Elle nous parle, mais pas avec le même ton, vous avez raison.
Elle vous parle comment, la ministre de l'Environnement?
Elle aime pas tout ça, c'est pas son truc.
Ah bon?
Voilà, elle vous parle, vous avez vu, elle a été interviewée. Non, elle nous parle plus. Enfin, moi, j'y vais plus. C'est fini, je veux
plus. Ah, vous y allez?
Voilà. Non, j'y vais plus.
Elle a dit?
Voilà. Ouais. Bah, il y a pas longtemps, elle a été interviewée, elle était un petit peu secouée sur son bilan environnemental. La première chose qu'elle répond, vous avez j'ai interdit la chasse à la glu et j'ai interdit les animaux dans les cirques. C'est génial, quand même.
Mais justement,
quel bilan.
Est-ce qu'il existe un lobby des chasseurs au sens strict du terme? Je dis pas ça de façon négative parce que tout le monde a toutes les actions ont des lobbies. Est-ce qu'il existe vraiment un lobby? Est-ce qu'il existe une homogénéité politique des chasseurs? Est-ce que les chasseurs ils votent plutôt RN, ils votent plutôt
Il existe un lobby au sens où vous appelez le terme de lobby. Oui. Il existe dans des gens qui aiment la chasse. Il y a des élus qui aiment la chasse, donc il y a un réseau. Il y a un réseau. Et comme tous les corporatismes en France essayent d'influer sur la décision politique.
Bien sûr.
Nous, comme les autres. Sauf que ni plus, ni moins.
La campagne est plus représentée à l'Assemblée nationale. Donc
non, au Sénat plutôt.
Surreprésentée. Vous n'avez pas l'impression qu'aujourd'hui en France, dans le monde politique, on est largement...
Regardez, moi j'habite dans une. Vous êtes 2% de la population, vous êtes énormément représentés en nombre de députés, en nombre de sénateurs.
Alors c'est pas 2%, il faut qu'on se mette d'accord, c'est 30%.
Les ruraux.
30% des gens aujourd'hui qui tiennent 90% du territoire ne représentent que 10% d'élus aujourd'hui en France. Ça, c'est le bon chiffre. Ça veut dire que 9 élus sur 10 ne sont pas des gens inféodés à la ruralité. Pourquoi ? Parce que c'est le système politique qui veut sur lequel je me bats aujourd'hui. Parce qu'il n'y a pas que le peuple. Le peuple est représenté à l'Assemblée nationale par rapport effectivement à son volume. Je l'entends. Mais un peuple, c'est aussi un territoire. Et aujourd'hui, il est anormal qu'on élise encore des sénateurs. La ville, vous prenez Paris, pourquoi avoir presque 20 sénateurs qui se promènent à Paris ? Je ne vois pas l'intérêt.
Mais c'est au nombre d'un. Je ne vois pas pourquoi un habitant de chez moi, où on est 2 millions, vaudrait moins qu'un habitant de France.
Il y a une Assemblée nationale qui représente le peuple dans son ombre. Je suis d'accord et c'est normal. Il y a un Sénat qui a pour vocation de gérer les territoires. Oui. Il n'est pas normal que les territoires soient écrasés aujourd'hui par le nombre. Non, c'est un espace. Et un espace, un peuple, un espace.
Vous êtes en train de dire que 20 sénateurs à Paris, ça sert à rien parce qu'ils vont penser la même chose. Voilà. Il faudrait un peu plus de sénateurs dans les zones
rurales. Comment ça se fait qu'en Lozère, par exemple, il y a un sénateur et un député? Et on a en plus des Français qui veulent tous retourner en campagne.
Et ça explique peut-être aussi parfois la déconnexion.
Bien sûr, mais elle vient de là.
Des élus par rapport à certains Français.
Monsieur Schrein a tout à fait raison parce que ça permettrait aussi de se rendre compte que la ruralité, c'est pas non plus que des chasseurs. Ruralité, ça permettrait aussi de montrer la part de ceux qui défendent la biodiversité, de ceux qui défendent une écologie intelligente et pas une écologie dogmatique, comme justement les sénateurs parisiens écolos qui n'ont jamais vu animal de leur vie.
Juste pour conclure, Willy Schrein,
on va regarder ça.
Pour conclure,
ça.
Là,
déjà conclure.
Oui, lundi prochain, assis à cette même place, ce sera le patron des Verts, Julien Bayou, qui sera là. Vous avez un petit message, une question à lui poser.
Vous pourrez lui demander pour moi s'il dort encore bien la nuit, parce que expliquer quand même aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de choses, c'est peut-être un peu long, on va conclure vite. C'est quand même aujourd'hui des gens qui ont une doctrine très 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 particulière sur l'approche effectivement des gens qui vivent dans les territoires. Expliquer aujourd'hui qu'on est écologiste, environ, vous l'avez vu, les boomers, donc tous les vieux, on va dire, c'est des cons, forcément ça vote pas écolo. On vire les chasseurs, on vire les fachos, bon ça encore on peut en discuter, on met même aussi quelques personnalités plutôt d'origine juive, ça m'inquiète. Vous prenez la campagne de Brigitte Bardot contre les chasseurs, c'est le même état d'esprit. Aujourd'hui on stigmatise des gens, on met de l'argent sur la table pour faire de la publicité, on l'avait jamais fait depuis l'occupation. Voilà. Et la tête des chasseurs était remplacée par une tête de juif. Je suis désolé. Ces gens, aujourd'hui, c'est scandaleux. Voilà. Traiter les vieux comme ils sont traités par les écolos, j'espère qu'ils prendront une bonne branlée aux élections. Ils ne l'auront pas volé.
Merci, Willy Schrein. On se retrouve lundi, mais juste avant, on va faire un petit coucou à Rémi Barré parce que le débat va continuer sur RMC, RMC Story.
Exactement, dans Neumann, le Chypre, dans un instant, nous allons parler des États-Unis qui tombent le masque. Joe Biden l'a annoncé hier soir, les personnes entièrement vaccinées n'ont plus besoin de porter le masque de protection. Et si on faisait la même chose en France, bonne ou mauvaise idée, vous nous appelez tout de suite au 3216, c'est Neumann, le Chypre.
Sur RMC, RMC Story, le débat continue lundi. Nous serons avec Charles Consigny, avocat, Joël Dagosséry, coach de vie, Thomas Porcher, économiste et donc le patron des Verts, Julien Bayou. On aura la petite question de Willy Schrein à lui soumettre. Passez un bon week-end et rendez-vous.